Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Maintenant, entre les frères et sœurs, on en parle, on se raconte ce qu'on se racontait depuis des lustres. Parce que chacun connaît l'histoire des morts et des vivants. Tu sais, ça fait bouger le système, ça.
Rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. Sixième épisode. Jouer du piano était devenu pour ma mère la seule occupation possible. Elle avait du mal à nous parler, à nous écouter, s'impatientait de nos jeux, cuisinait peu, dormait de moins en moins. Les gymnopédies de Satie et les valses de Chopin seront pour moi à jamais attachées à elle. Chaque jour, Lucille rentre de son travail plus pâle encore et toujours plus fatiguée. Elle ne parvient plus à trouver le sommeil.
Maman, on va se coucher. Tu viens nous dire bonne nuit ? Je crois que Manon veut que tu lui lises une histoire.
Mais chérie, j'écris un texte. Quelque chose de très important.
Ce soir-là, vers 22h, Manon vient me trouver.
Maman, elle va pas bien. Faut appeler Marilyn et lui dire de venir. Tout de suite.
Je ne m'approche pas de Lucille. Je suis terrorisée à l'idée qu'elle puisse mourir là, sous nos yeux.
Allô, Marilyn ?
Oui ?
C'est Delphine.
Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, c'est maman, ça va pas du tout. Tu peux venir ?
Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite.
Merci.
Il se passe encore plusieurs minutes avant que j'ose entrer dans la chambre de ma mère, où Manon est restée avec elle.
Votre maman a beaucoup fumé, mais n'a pas pris de somnifère. En tout cas, pas dans une quantité qui pourrait la mettre en danger. Je vais rester avec elle. Allez, retournez-vous coucher. Oui. Après une bonne nuit de sommeil, tout ira mieux. Bonne nuit.
Bonne nuit. Merci.
J'ai échappé de peu à la folie et au suicide. C'étaient les paroles de ma mère, et c'est ainsi que je les notais mot pour mot dans mon journal.
Maman a échappé de peu à la folie et au suicide. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a parlé de la honte, de l'emprise de la honte. Maintenant, elle va aller mieux. Elle m'a promis de moins fumer.
Quelques jours plus tard, ma mère fait des photocopies de son texte, nous le donne à lire, l'envoie à ses parents et à tous ses frères et sœurs. Le texte de Lucille s'appelle « Recherche esthétique ».
J'aime me sentir si mal, si désincarnée à côté de mon corps et si attentive à ses battements, son gauchérisme prononcé, à sa faiblesse. 11h, 1er juin, premières angoisses. Comment vais-je gouverner ma pensée? Faire mon repassage? Parler à mes enfants? Écouter autre chose que le vide? Mes doigts vont-ils trembler sur le clavier? Arriverai-je à travailler? Au lieu de répéter mécaniquement dans le but d'atteindre une improbable perfection. J'aime si peu m'endormir. La chambre est apaisante. Je suis raide. J'y pense et je me dis que j'ai raison. Je veux user ce corps et de là, le faire vivre. Pourquoi le gâterais-je? Est-ce qu'on m'a gâtée peut-être? Ferais-je expier mon père, sachant qu'il ne peut me refuser aucun caprice que j'ordonne devant ma mère? Comme ce collier d'or que je me suis fait offrir récemment. J'achète beaucoup de cigarettes. J'ai aimé des hommes. Ma bouche est amère. Je suis éblouie des petits poèmes en prose, à croire que je ne les avais jamais lus. Je dis à Delphine que j'écris depuis quelques jours. Je me sens coupable. Elle me trouve bizarre. Mon écriture, si elle dure, ne peut être qu'un immense malaise. Je renonce à la vie. Je me couche pour mourir. Mes filles se taisent.
Au bout de quelques pages, fragments douloureux additionnés les uns aux autres sans cohérence apparente, le texte de Lucille se termine par ces mots.
Nous partons pour notre maison de campagne. Je suis avec mon amoureux, nous sommes avec mon père. Je ne suis pas tendre, pourtant j'aime mon ami. La nuit je ne dors pas, je suis traquée. Forrest dort en haut. Je vais pisser, mon père me guettait. Il me donne un somnifère et m'entraîne dans son lit. Il m'a violée pendant mon sommeil. J'avais 16 ans. Je l'ai dit.
Écrire sur sa famille est sans aucun doute le moyen le plus sûr de se fâcher avec elle. Les frères et sœurs de ma mère n'ont aucune envie de lire ce que je viens de retranscrire, ni ce que je m'apprête éventuellement à en dire. Des choses dérangeantes. Devant un croque-monsieur, un peu impressionné, ma sœur m'assure de son inconditionnel soutien.
Mais la peur suffit-elle à se taire?
Je suis sûre que je vais les blesser, Manon. Et ça me perturbe. Vraiment, c'est ça qui me perturbe le plus.
Il faut aller au bout, ne rien laisser dans l'ombre.
Ouais. Oui, je sens que le seul chemin possible, au point où j'en suis, au point où on en est tous, c'est celui-là. Celui qui passe par ce point.
La peur suffit-elle à se taire? À 32 ans, Lucille écrit que son père l'a violée. Elle envoie le texte à ses parents et à ses frères et sœurs, nous le donne à lire. Pendant quelques semaines, j'imagine qu'il va se passer quelque chose de très grave et de tout à fait retentissant. Une implosion familiale qui ne manquera pas de provoquer de terribles dégâts. Je suis dans l'attente du drame. Pourtant, il ne se passe rien. Nous continuons d'aller de temps en temps en week-end à Pierremont. Personne ne chasse mon grand-père avec un balai. Personne ne lui défonce la gueule sur les marches de l'escalier. Ma mère elle-même parle avec son père et ne lui crache pas au visage. J'ai 12 ans et la logique des choses m'échappe. Comment est-il possible qu'une telle révélation ne soit pas suivie d'effet? Il ne se passe rien. Ni larmes, ni cris. Ma mère va chez ses parents, qui s'inquiètent pour elle, qui a l'air si fatiguée. Elle a maigri, ses traits sont tirés, elle ne dort pas. La vie est si dure pour leur fille qui élève seule ses enfants. Quelques mois plus tard, ma mère s'est rétractée. Elle parlait alors d'une relation incestuelle plutôt qu'incestueuse. Réfuter le récit du passage à l'acte. Comme des milliers de familles, la mienne s'est accommodée du doute ou s'en est affranchie. À la rigueur, pouvait-on admettre une certaine ambivalence, un climat qui prêtait à confusion, mais de là à imaginer le pire. Un viol fantasmé par Lucille, voilà tout. Cela rendait les choses respirables. Or, il y avait si peu d'air. La preuve qu'elle ne tournait pas rond, on ne tarderait pas à la voir. Des années plus tard, alors que Manon et moi étions devenus adultes, à une époque où Lucille allait bien, ma sœur lui a reposé la question. Lucille lui a répondu que oui, cela était arrivé, et que personne n'avait réagi à la lecture du texte qu'elle avait envoyé. Le texte est resté lettre morte et Lucille n'a reçu en retour qu'un silence pétrifié. Il y a quelques mois, lorsque j'ai demandé aux frères et sœurs de ma mère de me parler d'elle, ils ont tous accepté avec enthousiasme.
rendre hommage à Lucille. Tenter de l'approcher. Ah oui, bien sûr. Pour nous tous, Lucille, sa douceur, sa violence, reste un mystère.
Il va de soi que l'hypothèse du viol de Lucille par mon grand-père figurait en bonne place parmi les thèmes que je voulais aborder. Pourtant, au moment où j'ai commencé ce travail, je n'avais aucune certitude. Lorsque je réécoute les conversations que j'ai eues avec chacun d'entre eux, il me semble que la question est omniprésente, dès les premiers mots. Elle pèse avant même d'être posée.
Oui, c'est vrai. Notre père avait une certaine adoration pour sa fille.
Ils prennent des précautions.
Une fascination.
Évaluent chaque mot.
Ou une passion. Un amour. Un regard, oui. Pouvait être oppressant pour elle. Susciter le fantasme, peut-être. Mais toutes les filles ne sont-elles pas amoureuses de leur père? Hein? Mais l'inceste, non. Sûrement pas. Pas un geste.
C'est impossible.
Seule Justine, qui aborde le sujet d'entrée de jeu, admet la possibilité du passage à l'acte. J'appréhendais cet entretien plus que les autres, car les rapports de Justine et Lucille ont souvent été conflictuels, tendus à l'extrême, comme si s'était cristallisée entre elles une douleur impossible à partager. Justine m'a raconté un mois d'été qu'elle avait passé seule avec Georges, quand elle avait 18 ou 19 ans, à l'époque où ce dernier emmenait ses enfants à Pierremont, un par un ou à plusieurs, pour l'aider dans les travaux. Justine m'a raconté la manière dont Georges l'avait harcelée, sans répit, pour qu'elle enlève son t-shirt, son soutien-gorge, qu'elle se déshabille, qu'elle se mette à l'aise. Il voulait prendre des photos d'elle, l'aider à découvrir sa sexualité, lui apprendre à se masturber. Justine s'échappait dès que possible pour marcher sur les bords du canal. Georges fermait la porte d'entrée à clé. Elle a eu peur, tout le temps. Il a pris une série de photos d'elle que Justine n'a jamais retrouvées. Georges n'était pas un homme à qui l'on disait non. Je lui ai demandé jusqu'où il était allé. Il l'avait tripatouillée, mais pas violée. Peut-être avait-il eu peur qu'elle parle, car Justine, contrairement à Lucille, avait le verbe haut. Justine a vécu l'oppression de Georges, son regard, la menace qu'il représentait. Aujourd'hui, elle revendique une part de haine pour cet homme qui a brisé sa jeunesse et compromis pour longtemps son aptitude au bonheur.
Cet homme qui aurait pu se contenter d'être un père merveilleux.
Un autre jour, toujours en préparation de ce livre, j'ai vu Camille. Camille est la plus jeune sœur de mon père, Gabrielle. Elle était l'une des meilleures amies de ma mère quand elles avaient une vingtaine d'années. De la même manière, on se relevait. J'espérais que Camille m'aiderait à retrouver la Lucille lumineuse et pétillante du documentaire tourné pour la télévision. Je voulais Lucille futile et insouciante.
Ce n'est pas ton sujet. Vous avez déjà tellement souffert. Je ne suis pas sûre de devoir évoquer ça.
Au contraire, tu peux me dire tout ce que tu as envie. Au contraire.
J'avais 16 ans. Il était prévu que Georges m'emmène à Alicante. Où Liane et ses enfants, ainsi que mon frère Gabriel, étaient déjà en vacances, depuis quelques jours. Je me suis retrouvée dans la voiture de Georges, que je connaissais à peine. Sur la route, on a fait une première escale pour récupérer un cousin de Lucille. Puis une seconde chez des amis de Georges pour dormir un peu. Nous nous sommes retrouvés tous les trois. Dans le même lit. Le cousin, moi et Georges. Georges à la place du milieu. Pendant la nuit, il s'est collé contre moi, a commencé à me caresser. Pétrifiée, je n'ai rien dit. En Espagne, je me suis tenue à distance. Mais j'ai été frappée d'une crise d'appendicite aiguë et on m'a rapatriée l'ICO en France. Pendant des mois, Georges a exigé que je l'appelle, que je le rejoigne ici ou là. Il disait qu'il était fou de moi. Il me donnait des rendez-vous auxquels je me dérobais. Des noms de code pour que je lui téléphone à l'agence. Des adresses où je devais le retrouver. plus je le fuyais, puis il se montrait menaçant. Si je n'accédais pas à son désir, il raconterait à ma mère de quelle manière je m'étais collée à lui cette nuit-là et comment je m'étais prise pour provoquer son désir. Je connaissais rien au sexe. Et l'idée que ma famille apprenne de telles horreurs me terrifiait. Le temps a passé, mais George n'a pas lâché prise. Il a fini par parvenir à ses fins. Un soir d'abord à la suite d'un dîner qu'il avait obtenu et puis un week-end entier à Pierremont, où il m'a tendu un véritable guet-apens pour se retrouver seul avec moi. Terrorisée par ses menaces, j'ai cédé. J'ai passé 2 jours enfermée avec lui, sous sa domination, sous prétexte que les voisins ne devaient pas me voir. J'ai honte de te raconter ça. Je suis désolée. Je me suis longtemps tue.
À son retour en France, Camille s'est mariée, a eu des enfants, malgré l'empreinte que Georges avait laissée sur son corps et ce sentiment de culpabilité qui ne l'a jamais quittée. Après le divorce de Lucille et Gabriel, Lucille et Camille se sont perdues de vue. Aux obsèques de Lucille, elle était là. J'ai raconté à Camille le texte de Lucille et puis sa volte-face. La manière dont nous nous sommes rangés derrière l'idée qu'il s'agissait d'un délire, mis sur le compte de sa maladie. Le doute qui pour moi subsistait encore et ne trouvait aucune réponse. Camille était bouleversée.
Tu vois, j'ai souvent eu le sentiment que Lucille se protégeait de son père. Elle évitait de se retrouver seule avec lui.
Elles ne se sont jamais parlé.
Maintenant, je me rappelle d'un week-end où j'étais avec tes parents à Pierremont. Georges est entré nu, en pleine nuit, dans ma chambre. Quand il a entendu Gabriel dans le couloir, qui sans doute l'avait vu entrer, il a eu peur. Et plus tard, en voiture, alors qu'on était seuls, Lucille m'a posé des questions sur son père. Ce qu'il faisait là en pleine nuit dans ma chambre. Lucille était tendue, agressive. Je n'ai rien dit.
Si elle avait parlé, si elle s'était parlé, leur vie aurait-elle été différente? Un jour, nous étions chez Violette, dans sa cave, à la recherche des mémoires de Georges.
Violette, j'aimerais bien prendre les cassettes pour les écouter tranquillement.
Non. Je veux pas. C'est hors de question. Je te confierai pas les cassettes si c'est pour que tu les utilises contre mon père.
Mais je cherche rien d'autre que les souvenirs professionnels de Georges et quelques anecdotes sur la rue de Maubeuge.
À l'époque où Georges enregistrait ses mémoires, il m'a annoncé un jour qu'il avait consacré une cassette à sa sexualité. Je lui ai clairement signifié que j'en voulais pas. 15 jours plus tard, il m'a dit l'avoir détruite.
Violette m'a laissé prendre les cassettes. Ma mère et mon grand-père sont morts tous les deux. Il est trop tard pour connaître la vérité. Lucille était bipolaire et il semblerait que l'inceste figure parmi les facteurs déclenchants de la maladie. J'ai retrouvé un débrouillon du texte de ma mère, écrit au crayon de papier sur un cahier d'école.
Dernier tableau. Nous partons pour notre maison de campagne avec mon amoureux.
Nous sommes avec mon père.
Je ne suis pas tendre.
J'ai tellement peur que mon père nous voie l'être. Je ne suis pas tendre. Mon ami Forrest dort en haut. Je vais pisser. Il me guettait. Il me donne un somnifère et m'entraîne dans son lit pour me détendre. Je suis si nerveuse. Je ne sais pas s'il m'a violée. Mon ami Forrest, je vais pisser, il me guettait, il me donne un somnifère et m'entraîne dans son lit. Il m'a violée pendant mon sommeil. Il y a 16 ans. Et je le dis.
Lucille a raconté à Manon que Georges l'avait obligée à s'asseoir sur le bord de son lit, puis avait commencé à la caresser. De terreur, elle s'était évanouie. Il n'était plus question de somnifères.
Journal du vide, rédigé à la demande du docteur D. Samedi 29 décembre 1984. Aujourd'hui, mon père m'a offert une montre ronde pour cacher mon tatouage au poignet qu'il n'aime pas. Moi, j'aime mon tatouage. Il fait partie de moi-même. Mon père ne sait pas qu'il est à l'origine de ce tatouage. 10h10. C'est l'heure à laquelle je me suis réveillée dans leur chambre après avoir passé une nuit avec lui et qu'il m'a peut-être violée. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu très peur et que je me suis évanouie. C'est la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie.
Lucille, jusqu'à la fin de sa vie, a gardé cette montre ronde, tatouée au poignet. 10h10, l'heure du réveil, l'heure à laquelle sont arrêtées les montres dans les vitrines des bijoutiers. Et si, au cours de cette nuit, il ne s'était rien passé et n'avait existé que la peur, cette peur immense, et l'inconscience qui l'a suivie? Parfois, une autre idée me vient et me hante. Et si, incapable de le dire ou de l'écrire, Lucille s'était heurtée à un tabou plus profond encore, celui de son état de conscience? Et si Lucille ne s'était pas évanouie, quoique tétanisée par la peur, et que Georges ait abusé de son pouvoir, de son emprise, pour la soumettre à son désir, la convaincre d'y céder? Et si Lucille, comme Camille, n'avait pas pu, pas su dire non? Ensuite, la honte aurait distillé son venin et interdit toute parole, sauf à être travestie. Ensuite, la honte aurait creusé le lit du désespoir et du dégoût. Nous ne saurons jamais. Nous avons, les uns et les autres, nos propres convictions, ou bien nous n'en avons pas. Peut-être est-ce cela le plus difficile, n'avoir jamais pu haïr Georges, mais n'avoir jamais pu l'absoudre non plus. Lucille nous a laissé ce doute en héritage, et le doute est un poison. Quelques mois après la rédaction de ce texte, et le silence qui entoura sa diffusion, Lucille fut internée pour la première fois. La coordination est à l'écriture ce que le montage est à l'image. Telle que j'écris ces phrases, telle que je les juxtapose, je donne à voir ma vérité. Elle n'appartient qu'à moi.
C'était « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Sixième épisode. Avec Elsa Le Poivre et Luce Mouchel, Françoise Gillard, Suzanne Aubert, Garance Clavel, Marianne Épin, Lara Brulle, Manon Leroy, Françoise Lebrun, Sophie Doll, Jean-Claude Frissong et la voix de Ombline de la Tessonnière. Bruitage, Sophie Bissens, assistée d'Elodie Fiat. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Prise de son, montage et mixage, Catherine Dérété et Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.